Noko. Billets d'humeur ou chroniques, anecdotes ou histoires, culturelles et musicales. Inclassable. Aux manettes et au micro, Gilles Béguet. Bonsoir et encore une fois, merci à toutes les auditrices et auditeurs fidèles à ce programme, que ce soit sur 48FM ou bien sur Fréquence Mistral. Bonjour aussi à tous ceux qui profiteront de la rediffusion ou bien encore de l'écoute en différé sur le site orinoco-podcast.com. Nous allons dans cet épisode d'Orinoco nous poser quelques questions dérangeantes. Questions relatives à la liberté d'expression, dont nous parlons si souvent en France, parlons et revendiquons haut et fort. Nous allons chercher quels furent les obstacles à la liberté d'expression au cours des siècles. Essayer de découvrir quels furent et quels sont les emblèmes, les rites, les dogmes menaçant et entravant cette liberté. Voir si, après le poids des croyances, des religions et de leurs dogmes, la laïcité n'aurait pas pris leur place avec ces nouvelles doctrines, ces nouveaux emblèmes, rites et totems. C'est une interrogation qui peut vous paraître curieuse, car nous considérons généralement que la laïcité a franchi le peuple de l'asservissement. Mais c'est là, je pense, un préjugé trompeur. Dans un premier temps, je tiens à rassurer tous ceux qui ne s'intéressent ni à la politique, ni à la philosophie, ni à la religion. Ce programme ne s'adresse pas non plus particulièrement aux intellectuels ou encartés idéologiques, comme je le rappelais déjà dans l'émission « Égalité et justice font-ils bon ménage ?». Ce programme n'a pas non plus pour objectif de condamner ou d'approuver tel ou tel comportement ou tel système. Non. Orinoco aura pour seul objectif de soulever quelques questions pour que chaque auditeur puisse se faire une idée à ce sujet. Et je pense qu'étant tous apparemment attachés à la liberté d'expression, nous serons intéressés par cette réflexion. Et c'est pour cette raison que je développerai les différentes idées calmement pour permettre à chacun d'y réfléchir sans avoir à les accepter bêtement. Je disais donc qu'on est tous apparemment attachés à la liberté d'expression. Quand je dis « apparemment », c'est que selon toute vraisemblance, vous l'êtes et nous le sommes. Alors, quelles sont ces apparences? Et ne remontons qu'aux années où le net existait, plus particulièrement les réseaux sociaux, pour pouvoir comparer les choses sur une échelle de valeurs comparable. Depuis les années 2000, chaque mois, ou presque, est émaillé de faits divers relatant des attentats terroristes. En 2000, attentat contre le marché de Noël de Strasbourg. En 2002, incendie du bureau régional du secours populaire à Toulouse par des néo-nazis. Et je ne vais pas tous les passer en revue, mais en 2015, c'est l'attentat contre Charlie Hebdo. Et si l'on devait faire le compte des victimes depuis cette année-là, on serait proche des 300 morts. Et sans vouloir classer quelque attentat que ce soit par ordre d'importance en rapport avec le nombre de victimes, chaque tué mérite la même considération, je constate simplement que le slogan arboré par beaucoup « Je suis Charlie » est assez significatif. D'ailleurs, plus proche de nous, là, en octobre dernier, trois personnes meurent poignardées près de la basilique Notre-Dame de Nice, quelques jours seulement après la décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie de 47 ans. Qui peut me dire le nom de ces trois victimes ? Qui peut me dire le nom de ces trois victimes ? Personne ? Même sur le net, c'est dur à trouver. Il y avait à vrai dire Nadine de Villiers, 60 ans, Vincent Loques, 55 ans, et Simone Barreto Silva, une franco-brésilienne de 44 ans qui élevait seule ses trois enfants âgés de 7 ans, 11 ans et 15 ans. Question. Avez-vous vu des t-shirts « Je suis Barreto Silva » ou « Je suis Loques » ou « De Villiers » t-shirt ou slogan affiché sur les réseaux sociaux ou lors de manifestations ? Non. Même question. Avez-vous vu des t-shirts ou des slogans « Je suis Samuel Paty » ? Oui. Quelle est, à votre avis, la différence fondamentale de comportement général face à ces véritables tragédies ? C'est assez simple à expliquer et à résumer. Dans le cas de Charlie Hebdo, comme dans celui de Samuel Paty, se trame en filigrane la sacro-sainte liberté d'expression. Car dans ces deux cas, c'était visiblement et clairement affiché, la liberté d'expression était visée, ciblée et attaquée. Alors, tous se sont regroupés derrière cette bannière, derrière ce slogan. Combien sont ceux à avoir changé leur photo de profil sur les réseaux pour arborer fièrement le « je suis » En parallèle, certains se sont interrogés sur l'opportunité de la caricature et du blasphème, car il faut honnêtement reconnaître que ce fut, entre autres, suite à la parution des caricatures du prophète, que les choses ont pris une nouvelle dimension. Alors malgré quelques éternuements, un consensus fut trouvé pour reconnaître qu'en France, le délit de blasphème n'existait plus, et cela depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789. Enfin, en théorie. Oui, je dis bien en théorie, car, comme nous le verrons, en reprenant la définition du blasphème, c'est-à-dire parole ou discours qui outrage la divinité, la religion, ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré, on peut réellement dire que le délit de blasphème est toujours condamné en France. Et nous reviendrons assez longuement sur ce sujet. Alors libéré, apparemment, de toute entrave, tout devenait permis, dans la limite du raisonnable. Et qui fixe le raisonnable ? Le législateur. La liberté d'expression est un principe absolu en France, mais ni total, ni limité, car encadré par la loi. Et deux principes, officiellement, limitent cette liberté d'expression : la diffamation et l'injure, d'une part, les propos appelant à la haine, qui rassemblent notamment l'apologie de crimes contre l'humanité, les propos antisémites, racistes ou homophobes, d'autre part. Cela est vrai, dans des propos tenus de vive voix, rédigés dans quelque ouvrage que ce soit, et sur la toile, bien sûr, le net prenant une place de plus en plus intrusive dans la vie de chacun. On pourrait donc penser qu'on peut gentiment dormir sur nos deux oreilles, car chanceux de vivre aujourd'hui dans un pays débarrassé de toute privation de liberté d'expression. Mais tel n'est pas le cas, et nous allons ensemble examiner ce qui nous autorise à le penser. Alors j'en entends déjà me dire « De quoi se plaint-on ? Tu as vu comment ça se passe là-bas ? Amuse-toi à dire le quart de ce qu'on peut dire en France et tu verras. » Vous avez raison de me dire que c'est pire et bien pire dans certains, dans de nombreux pays. Mais ça n'empêche en rien que la liberté d'expression en France, droit fondamental en démocratie, est souvent mise à mal. Surtout pour un pays qui se revendique haut et fort d'incarner la liberté d'expression et d'information. Et je pourrais prendre, pour exemple, une maman qui me dirait que son fiston de 12 ans n'est pas obèse puisqu'il ne pèse que 65 kg pour 1,40 m, alors que beaucoup aux États-Unis pèsent beaucoup plus que lui à cet âge. Vous voyez le problème ? Le déni ne change rien à la situation, reconnue ou pas, obèse, c'est obèse. Bien qu'il y ait des degrés divers d'obésité allant jusqu'à l'obésité morbide. Tout comme les privations diverses de liberté d'expression peuvent prendre des formes différentes, allant jusqu'à l'asservissement et le totalitarisme. Et grand merci de reconnaître que nous n'en sommes pas encore là. Alors, comme annoncé en préambule, cherchons quels furent les obstacles à cette liberté d'expression au cours des siècles. Essayons ensemble de parcourir quelques siècles d'histoire pour voir les formes qu'ont pu prendre les privations de liberté. Et faisons-le un peu comme nous le ferions avec Google Maps, qui nous donne d'une façon assez vertigineuse une vision de la planète qui, en zoomant, arrive jusqu'à devant notre porte. Pour ce faire, évoquons ensemble quelques grandes civilisations et leurs caractéristiques. Nous essaierons d'analyser successivement l'Égypte antique, puis en se rapprochant la Grèce, Rome, et arriverons jusqu'à nos jours. Un des aspects les plus intéressants de l'Égypte ancienne, c'est sa religion, car elle élabore les premières conceptions de la divinité. Leurs croyances évoluèrent lentement au fil des siècles pour déboucher progressivement sur une vision globale du monde, celle de la population du Nil. C'est la religion qui, unissant les communautés locales, en fit une nation. Leur dieu était Légion, est très souvent représenté sous la forme d'êtres mi-hommes, mi-animaux. On peut mentionner Thoth, le dieu de l'écriture et le messager du dieu solaire, représenté sous la forme d'un ibis. Osiris, représenté comme un homme momifié au teint vert, coiffé d'une couronne. Puis les rois et pharaons étaient aussi considérés comme des dieux incarnés, comme la manifestation physique du divin. On notera que dans l'Antiquité étaient désignés comme athées celui, non pas qui ne croyait pas, mais celui qui honorait un autre dieu que celui de la cité. Si la liberté d'expression était vraisemblablement réelle dans la classe des lettrés, elle avait pour corollaire de toujours demeurer dans les limites de ce que tolère l'idéologie erratique qui remonte aux pratiques entourant le pharaon et des dieux de la terre d'Égypte dont il est le représentant. Tout cela, accompagné d'un nombre d'interdits, passibles de peine pouvant aller de la torture à la peine de mort. On peut noter en parallèle, car nous y reviendrons ultérieurement, que cet empire, s'étendant sur la grande vallée du Nil jusqu'en Jordanie, Palestine et Syrie au nord, avait donc aussi sur son territoire un peuple monothéiste, ayant fait allégeance au pharaon. Sommes-nous en droit de dire pour autant « Ils n'étaient pas malins, ces Égyptiens, de croire à toutes ces conneries ?» Non, car malgré les milliers d'années qui séparent notre époque de cette civilisation, l'héritage que nous en gardons est immense. Qu'il s'agisse de la culture, de la vision de la vie ou de la société dans son ensemble, le legs de l'Égypte antique à notre culture occidentale n'a pas d'égal. Le temps des pharaons n'est pas si différent de notre XXIe siècle. Notre concept de supériorité hiérarchique vient de la vallée du Nil. Alors que la France n'a permis aux femmes de voter la première fois qu'en 1945, les Égyptiens observaient quant à eux une égalité des sexes parfaitement inscrite dans la société. Ainsi, les femmes étaient, par exemple, libres d'utiliser des moyens de contraception, de s'habiller comme elle le souhaitait, et ce sans le consentement du mari, de posséder des terres, de faire marcher une entreprise, de présider dans les temples, et même accéder au rang de pharaon, à l'image de Néfertiti. Nous n'avons toujours pas vu de femme présidente en France. Ce sont aux Égyptiens que nous devons la roue, l'astronomie, les mathématiques, la dentisterie, le parfum, l'esthétique, l'hygiène, le rasage, et bien plus encore. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de l'Égypte antique, mais juste pour souligner qu'on peut croire à des divinités contraignantes sans pour autant être des abrutis finis. Proche de nous, bien que remontant à plusieurs siècles, la Grèce antique et ses religions polythéismes avec à sa tête Zeus, le père de tous les dieux. La religion n'est pas l'affaire d'une croyance privée en Grèce. Elle est avant tout publique et concerne la communauté, d'où ses implications importantes avec la vie politique. La piété suppose le respect d'un juste milieu, la connaissance de limites à ne pas franchir avec les lois divines. Il s'agit avant tout de respecter les traditions des ancêtres et d'accorder aux dieux leur dû, c'est-à-dire offrandes, prières, en accomplissant scrupuleusement les rites. La piété est avant tout civique. Chaque cité est protégée par une divinité tutélaire. Lui manquer de respect, c'est risquer qu'elle cesse d'assurer cette protection. Danger qui concernerait tous les citoyens. Être pieux, c'est croire en l'efficacité du système de représentation mis en place par la cité pour organiser les rapports entre les hommes et les dieux, et aussi y participer activement. La piété, écrit Platon, consiste à savoir prier et sacrifier en disant et en faisant ce qui est agréable aux dieux. Elle assure le salut des familles et des états. Voilà ce que Platon écrivait. Peut-on dire à nouveau qu'il fallait en tenir une sacrée couche pour croire à toutes ces conneries? Ça serait oublier que notre chère démocratie, à laquelle nous tenons tant, nous la leur devons. Eh oui, ce système inédit, permettant ainsi au peuple d'accéder aux fonctions politiques, nous vient de cette Grèce et de leurs dieux. On est en droit de penser que les Grecs fournirent les chromosomes de notre civilisation occidentale. Ce sont les Grecs qui mirent l'art de l'écriture à la portée du peuple. Jusque-là, seuls les prêtres et les scribes y avaient accès. Nous leur devons le théâtre et mille autres choses. Bien que croyant fortement et sincèrement qu'une pléiade de dieux résidait sur le mont Olympe, dont le sommet était souvent caché par les nuages. Puis à la Grèce et son empire, succède à Rome. Et comme vous le comprendrez fort bien, ce programme n'étant pas un cours d'histoire géo, nous ne ferons que survoler des siècles, voire millénaires d'histoire. Donc, comme je vous le disais, arrive l'Empire romain pour succéder à la Grèce. On est aux alentours du 1er siècle et si le pouvoir est dans les mains d'un seul homme, l'empereur, le territoire, lui, recouvre l'ensemble des pays de la Méditerranée. Tout le nord de l'Afrique, l'Égypte, la Palestine, puis en remontant ce qui serait aujourd'hui la Syrie, la Turquie, les Balkans, puis l'Italie, la France, la Gaule à cette époque, et l'Espagne. Vous comprendrez aisément que les dieux de tous ces territoires ne s'étant pas regroupés au même endroit, on parlait plutôt des religions sous l'Empire romain que de la religion. Vu la diversité et le nombre des peuples colonisés, l'Empire romain laissait plus ou moins en place les expressions religieuses locales ainsi que les rites, à condition que ça ne fasse pas trop d'ombre à César. Ils avaient quand même leurs dieux propres, venant plutôt des dieux étrusques, les étrusques qui occupaient le centre, la Toscane et le nord de l'Italie actuelle. Peu à peu, ils ont identifié leurs dieux à ceux des Grecs. C'est ainsi que le Zeus grec s'est transformé en Jupiter, romain, Artémis en Diane, Hermès en Mercure, Aphrodite en Vénus, Dionysos en Bacchus, Poséidon en Neptune, et je ne vais pas tous vous les passer en revue. En parallèle, et cela a son importance, l'un des nombreux peuples du Moyen-Orient antique, déjà présent sous l'Empire égyptien, était la nation hébraïque, peuple peu nombreux par rapport aux puissants empires qui l'entouraient et dont les dieux étaient multiples. Premier peuple à ne croire qu'à un Dieu unique, ce qu'on appellera le monothéisme. Là aussi, nombre de rites et pratiques sacrificielles accompagnaient le culte de Yahvé, ainsi que des interdits. Leur division entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël, ainsi que divers facteurs économiques et politiques, obligèrent le peuple juif à de grandes migrations. Les Juifs ont donc migré vers Rome depuis la terre d'Israël. Comme tous les autres peuples de l'Empire, les Juifs habitant la Judée avaient le droit de respecter leurs coutumes et de pratiquer leur religion tant qu'elles n'étaient pas en contradiction avec les lois romaines. Puis un événement de la plus haute importance va survenir à cette époque. L'arrivée d'un homme juif de par sa naissance, Jésus de Nazareth, qui va contrarier les croyances de l'époque, susciter engouement et ferveur, s'attirant la méfiance des autorités politiques et religieuses avant d'être arrêté, contrarié au point que les Juifs finiront par le tuer. Ce qui n'arrange pas particulièrement l'Empire romain sous l'administration du préfet Ponce Pilate. Malgré tout, cela aura une incidence insoupçonnable. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et envoyé aux hommes pour les sauver. La prédication des premiers disciples du Christ influencera fortement cet empire, jusqu'au sommet de l'État, puisque Constantin, initialement adepte du Sol Invictus, le soleil invaincu, se convertira au christianisme. A-t-on le droit de dire qu'il fallait être un peu simple d'esprit pour laisser cours à de telles croyances? Certainement pas, car encore plus présente que pour l'Égypte ou la Grèce, la culture et la civilisation de cette époque est le socle de notre société. L'ensemble des bases de notre culture repose sur ces fondements. Mais continuons à zoomer sur l'histoire pour passer du christianisme, comme nous venons de le voir, né au 1er siècle en Palestine, et arriver à la chrétienté et au catholicisme. Après avoir été longuement persécutés, les chrétiens deviennent très largement majoritaires. Puis pour faire simple, il faut attendre 325 de notre ère et le concile de Nicée, concile général des évêques de l'Empire romain, sur convocation de Constantin Ier, pour assister à l'éclosion du catholicisme, se caractérisant par la dévotion à la miséricorde divine et la célébration des sept saints sacrements. Même si l'usage du terme catholicisme remonte qu'au XVIe siècle, pour marquer la différence avec les confessions protestantes au sein de l'Occident chrétien. Et là, rien de nouveau sous le soleil. La religion d'État était inséparable du pouvoir des pharaons, souvent considérés eux-mêmes comme incarnation du dieu Horus. Les villes grecques avaient un dieu ou des déesses liés à cette ville. Et bien la vénérable Église catholique, apostolique et romaine devient à son tour la religion d'État. Et le blasphème et le sacrilège deviennent condamnables. Il y a encore peu de temps, la loi du 20 avril 1825 ne prévoyait rien de moins que la peine de mort contre la profanation des vases sacrés, ceux de la Sainte Église catholique, et la peine des parricides contre contre la profanation des hosties consacrées. Puis, pour l'anecdote, on peut retenir l'exécution du chevalier de la Barre. Âgé d'à peine 19 ans, et cela en plein siècle des Lumières. Son crime ? Il aurait, avec d'autres jeunes gens, blasphémé lors d'une procession et lacéré un crucifix de bois. L'affaire a débuté un an plus tôt, le 9 août 1765 à Abbeville, quand on a découvert qu'un crucifix en bois, suspendu sur le parapet du Pont Neuf, avait été tailladé à coups d'épée. La rumeur accuse un groupe de jeunes aristocrates repérés pour ne pas s'être découverts lors des processions de la fête Dieu. François-Jean Lefebvre, chevalier de la Barre, 19 ans, ainsi que quelques autres fils de notables. Ces libertins auraient aussi chanté des chansons irreligieuses et se seraient vantés de ne pas s'être découverts devant cette procession du Saint-Sacrement. Vous vous rendez compte ? Chanter, ou du moins mal chanter, quelque chose de sacré, doublé d'un mauvais comportement face à un objet de bois. Quelle toupet ! Quelle audace ! Cela mérite réellement châtiment. Il me fait un peu penser d'ailleurs à l'émission du mois prochain que je suis en train de préparer sur les fables de La Fontaine, et particulièrement celle des animaux malades de la peste, où l'âne est condamné à mort pour avoir mangé un peu d'herbe qui ne lui appartenait pas, tandis que le lion, le roi, le puissant, qui avait dévoré moutons et bergers, est absous car considéré comme peccadille. Pour essayer de faire court, tout cela commence à bien faire, avec toutes les péripéties des relations complexes de l'Église et de la monarchie, de la religion et de l'opinion. L'imbrigation effective et bien réelle de l'Église et de la monarchie constituait en effet la formule de fondation de l'État. Et choisir d'attaquer la validité de la notion de blasphème, c'était attaquer le cœur politique du système. C'était un pas vers l'idée de séparation de l'Église et de l'État. Voltaire ne manqua pas de critiquer ce jugement, et cela à double titre. Premièrement, il fut étroitement lié à cette triste affaire, d'abord parce que le 1er juillet 1766, un exemplaire de son dictionnaire philosophique portatif fut brûlé avec le corps du chevalier. Deuxièmement, parce que, scandalisé par le jugement du Parlement de Paris et du tribunal d'Abbeville, Voltaire se dressa pour qu'on réhabilite le chevalier de la Barre. Et c'est paradoxalement un genre de conflit du travail qui mit en quelque sorte le feu aux poudres. En quel sens ? Eh bien, il faut savoir que le clergé bâtissait tout, pas seulement les cathédrales. Il était maître d'œuvre de tous les chantiers, que ce soit les routes, les ponts, les églises. Et toutes les infrastructures du pays étaient gérées par le clergé local. Alors, nombreux de ces constructeurs, dont les maçons, qui pour certains deviendront ultérieurement francs, s'opposèrent à cet asservissement, assujettissement, en refusant de payer leur dû. Et une bonne partie des manœuvres, des compagnons et des ouvriers ont commencé à créer des corporations, ce qui donna naissance ultérieurement à la franc-maçonnerie. Et ils se sont donc trouvés en conflit quasi permanent avec le patronat, c'est-à-dire le clergé. Et ceci a conduit peu à peu à une volonté de créer non pas une séparation de l'Église et de l'État, mais une simple indépendance d'action. L'État fait ce qu'il veut de son côté, sans demander au pape quoi que ce soit. Et l'Église en fait de même. Et voilà comment la laïcité a vu le jour. Puis au fil des temps, elle prit une autre dimension, passant non pas comme c'est souvent dit de la séparation du culte et de l'État, mais du contrôle de l'Église par l'État. Puis sont apparues deux lignes. La ligne radicale de la laïcité sans adjectif et la ligne de la laïcité plurielle. J'en veux pour preuve, c'est qu'on retrouve souvent, même chez les journalistes, laïque écrit L-A-I-C. Vous allez me dire quelle différence entre laïque L-A-I-Q-U-E et L-A-I-C. Bien, la syntaxe est assez révélatrice de la divergence de compréhension. La différence, c'est que laïque, avec un C, sous-entend que nous serions des agents du culte. Car la définition, et je vous invite à prendre votre petit Larousse, est la suivante, se dit d'un chrétien qui ne fait pas partie du clergé. Mais à vrai dire, je pense que ce n'est pas qu'une simple erreur d'orthographe, car pour beaucoup, la laïcité est une sorte de culte complémentaire. D'ailleurs, très proche de nous en Belgique, c'est carrément officialisé puisque le dimanche matin, il y a toutes les émissions religieuses et l'émission laïque, comme les autres. Alors est-ce à dire que la philosophie progressiste des Lumières est la religion de la République ? Oui. D'ailleurs, en relisant Alain Bauer, qui fut grand maître du Grand Orient de 2000 à 2003, on comprend que le Grand Orient, la plus ancienne obédience maçonnique française, et la plus importante d'Europe continentale, est l'Église de la République. Dans le sens où il y avait une autre forme de spiritualité qu'on pourrait appeler spiritualité laïque. Et, quel que soit l'éloge, ils ont toujours considéré que la République ne pouvait pas vivre sans spiritualité. Ce qu'on appelait les républicains atypiques. Renseignez-vous. Alors, où est le problème, me direz-vous ? Bien, le problème réside dans un phénomène assez simple. Deux d'ailleurs. Le premier, un phénomène naturel et bien connu, la nature a horreur du vide. Quand quelque chose disparaît, autre chose le remplace et prend immédiatement sa place. Le second est plus insoupçonnable, bien que constatable. Les peuples ont de tout temps eu besoin de croire. Aujourd'hui, avec l'émergence de la neurologie, on s'aperçoit que l'expérience mystique mobilise plusieurs régions du cerveau et non pas un petit point unique. Ce à quoi j'aimerais ajouter que ce n'est ni de l'obligation ni de l'utilité ou pas de croire, mais uniquement du besoin de croire dont j'aimerais vous parler. La croyance, en plus, n'est pas que religieuse et se définit généralement comme une attitude considérant à adhérer à une idée, une pensée, une affirmation, une théorie ou un dogme. Et sous ce rapport, la laïcité a apporté les siens pour échafauder et structurer la République. Avec le recul, on s'aperçoit qu'il apparaît toujours un peu cucu, un peu neuneux, un peu ridicule, appelez ça comme vous le voulez, ce à quoi croyaient les ancêtres, ceux qui nous ont précédés, qu'ils croient aux eaux du Nil, au dieu soleil, au dieu de la pluie, plus près de nous, à la création de l'univers en 7 fois 24 heures, ou au baptême des nourrissons pour qu'ils puissent aller au ciel s'il leur arrive quelque chose. Puis arrive à la science, élevée au rang de déesse. Si tu n'y crois pas aujourd'hui, c'est que tu es complètement taré. Ailleurs, il y a les chamans, nous, les médecins. Parlons-en de la médecine. médecine chinoise, acupuncture, homéopathique, allopathique. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais là encore, en France, vous avez intérêt à croire ce que croit la majorité, sinon vous êtes disciple d'une secte. L'hypnose était satanique et diabolique. Elle est aujourd'hui enseignée en faculté de médecine. Les théories se succèdent. La dernière est toujours la meilleure, bien que restant toujours une théorie. Théorie de la création, puis théorie de l'évolution. Je ne vais pas encore non plus les passer toutes en revue, ni les commenter en bien ou en mal, non. Je vais seulement faire remarquer que la dernière croyance et la plus répandue en un lieu donné est toujours la meilleure. Sous l'Inquisition créée par l'Église catholique et relevant du droit canonique pour combattre l'hérésie, on était prêt à tout. Cela paraît barbare aujourd'hui, mais sacré à l'époque. Plus récemment, sous le Troisième Reich, les prêtres de part et d'autre bénissaient leurs armées composées de bons chrétiens, et cela au nom du même Dieu. C'était bizarre avant. Quel bonheur de s'être sorti de toutes ces machinations, diront certains. De plus en plus nombreux d'ailleurs. La France étant l'un des pays qui compte le plus d'athées au monde. Mais pour moi, athée au sens où il était compris dans l'Antiquité. En désignant comme athée celui qui honorait un autre dieu que celui de la cité. Eh bien, quel dieu adore nos athées? Là est la question qu'il faut se poser. Je pense que dans la flopée des mots en « isme », désignant des courants de pensée philosophique, politique ou religieux, tels que animisme, judaïsme, bouddhisme, catholicisme, islamisme, on devrait et pourrait aisément rajouter « athéisme ». Pourquoi ? Car tous dogmatiques. Car passer de l'un à l'autre, comme ce fut le cas au fil des siècles, ne sous-entend pas ne plus croire, mais croire en autre chose. On a commencé par croire en la nature, puis en des dieux, puis en un dieu, puis en la science. Le dogmatisme est une pensée qui suppose une vérité, décisive, universelle, immuable et incontestable. Sa forme militante, la plus extrême, étant l'intégrisme. Il peut être considéré comme l'un des fondements intellectuels de l'intolérance, du fanatisme, du sectarisme et du totalitarisme. Le dogmatisme désigne donc par extension la disposition d'esprit d'une personne tentant à affirmer de façon préemptoire ou à admettre comme vrai certaines idées sans discussion. Pour 78% des personnes interrogées en janvier 2020, la laïcité fait partie de l'identité de la France. Selon les points de vue, la laïcité française est tour à tour ouverte ou radicale, positive, stricte, fantasmée, répressive, de collaboration ou d'abstention, de reconnaissance ou de contrôle. En effet, la spiritualité, victime collatérale du principe de laïcité, s'est vue en même temps que les religions, rejetées de l'école publique. Peut-on ne pas avoir foi ? Oui, bien sûr. C'est même en France l'attitude aujourd'hui la plus connue. Avant, on disait athée. Désormais, on parle de non-croyant. Ateur d'ailleurs. Et les phrases les plus répandues sur le net sont du genre « Le monde ne se portera bien qu'après la disparition de toutes les religions ». Tout n'ira bien que lorsque tout sera comme nous le voulons et non comme vous le voulez. Les athées répondent aussi que, dans la mesure où ils ne sont pas organisés en église, ils ne peuvent avoir de dogme. Les musulmans non plus n'ont pas d'église. Et l'islam est quand même une religion. L'athéisme devient alors une forme de religion. D'ailleurs, comme je vous le disais précédemment, en Belgique par exemple, où les religions sont subventionnées par l'État, la laïcité organisée bénéficie aussi de l'aide de l'État et d'un statut. D'ailleurs, je ne sais pas au jour de la diffusion de cette émission où en sera la loi sur l'obligation de mettre ses enfants à l'école dès l'âge de 3 ans, allant jusqu'à quasi interdire l'instruction à domicile. Tout cela pour éviter qu'ils ne reçoivent un enseignement autre que la sacro-sainte vérité absolue détenue par l'école laïque et républicaine. Enseignement qui devrait, pour le bien de la nation, être accompagné d'un uniforme, la tenue républicaine prônée par le ministre de l'Éducation en personne, à savoir M. Jean-Michel Blanquer. Ce qui me fait énormément penser à ce que prétendaient antérieurement l'école catholique, les mêmes, et on recommence. À quand une genuflexion devant le buste de Marianne? La dévotion n'a pas d'odeur, les insensés, pas de parti, et sont aussi intemporels. Le 5 janvier, sur la chaîne télévisée LCP Public Sénat, la sénatrice Catherine Belriti, membre du groupe Les Républicains et ancienne enseignante, interrogée en rapport avec la liberté d'expression, faisait référence à une proposition de loi déposée par son groupe visant, écoutez-moi bien, à interdire la critique de l'enseignement laïque républicain. Je reprends ses propos mot pour mot. Une loi en rapport avec la liberté d'expression ayant comme axe principal l'interdiction de critiquer l'enseignement laïque républicain. Si l'on reprend la décapitation du jeune François-Jean Lefèvre de la Barre, âgé de 19 ans, en plein siècle des Lumières, que lui reprochait-on ? Deux profanations. Des entailles à l'arme blanche sur le crucifix en bois du pont d'Abbeville. Et il se serait fait remarquer, quelque temps auparavant, chantant des chansons peu respectueuses de la religion. Invraisemblable à notre époque, pourrait-on se dire, pour un objet de bois et une chanson. Ça ne rigolait pas à l'époque. Connaissez-vous la loi de janvier 2003, prévoyant des peines allant jusqu'à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende pour outrage aux drapeaux et hymnes nationaux, sanctuarisés par la loi? Et oui, en France, pays de la liberté d'expression, la loi instituant le délit d'outrage à la Marseillaise et aux drapeaux tricolores a été votée en janvier 2003. Les emblèmes ont changé de camp, mais le principe reste le même. Ce n'est plus le ciboire et les hosties qui sont sacrés, mais le drapeau. Les rites demeurent. Lorsque le ciboire était rempli, il devait être recouvert d'un pavillon d'étoffe circulaire de couleur blanche, puis déposé dans le tabernacle. Le drapeau a ces mêmes rites. Lorsqu'il est plié, le rouge ne doit jamais toucher le bleu, donc on rabat le rouge sous le blanc, puis le bleu sur l'autre côté du blanc. Ça ne rigole pas. Tout comme les nappes de l'autel au nombre de 3 et pas posées dans n'importe quel sens. Le chevalier de la Barre était entre autres coupable d'avoir aussi chanté des chansons irreligieuses devant une procession du Saint-Sacrement. Eh bien, siffler ou outrager publiquement l'hymne national est passible de poursuite. À tous ceux qui croyaient en une France laïque, QE, eh bien, ce n'est plus le cas. Alors qu'on avait aboli le blasphème religieux, on le remplaçait par le blasphème républicain. Tout ça me fait un peu penser, et en exagérant énormément le trait, hein, retenez bien que j'exagère énormément le trait, à tous ceux qui furent libérés des camps de concentration nazis, où l'on voyait sur leur visage épuisé quelques expressions de soulagement profond. Avant de se voir réincarcérés dans ces mêmes camps, mais pour d'autres motifs. Sortis affaiblis mais vivants des griffes du nazisme, ils retombaient sous celles du stalinisme. Ah, les motifs et raisons invoquées n'étaient plus du tout les mêmes, mais leur sort restait inchangé. Je me répète, je ne tiens pas par cet exemple à comparer les camps de concentration et le goulag à ce que nous vivons à notre époque. Mais simplement, souligner qu'on peut souvent avoir une légitime espérance de libération, espérance et sentiment, qui s'accompagne d'une autre forme de dépendance et d'asservissement. Je ne porte là aucun jugement de valeur. Je dénonce simplement cette mascarade et réclame qu'on appelle un chat un chat. Ou, on est pour la liberté d'expression, et dans ce cas la liberté est totale, absolue, ou on est favorable à une censure, plus ou moins étendue, et dans ce cas on est contre la liberté d'expression. Si l'on revendique la liberté d'expression haut et fort comme nombreux semblent le souhaiter, on se doit de dénoncer ce genre de mascarade restreignant la liberté d'expression et attestant que la République a encore beaucoup d'efforts à faire pour être une démocratie. République soumise à une gymnastique bien souvent hypocrite qui, pour justifier cette inévitable censure, préfère la notion d'abus de liberté. Et je vous laisse chercher par vous-même les plus de 400 lois et articles des codes pénals et civils grignotant les principes posés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, elle-même déjà très mesurée. Si je devais résumer cette émission pour lever toute ambiguïté, je commencerai par réaffirmer qu'aucune critique favorable ou défavorable ne sont à retenir de cette démonstration. Que sans être historien, j'ai simplement essayé de relater le plus justement possible deux millénaires d'histoire de l'humanité. Qu'un constat s'impose au regard de la liberté d'expression, toujours soumise à la censure, censure exercée au nom de croyances diverses. Que les hommes ont continué à vivre au fil des apogées et décadences de leur civilisation. Et la seule note d'engagement personnel réside dans le fait qu'il me paraît évident que nous n'y échapperons pas et que nos vérités d'aujourd'hui seront oubliées demain. Et comme se terminera l'émission du mois prochain, si Jean de La Fontaine revenait, il pourrait aisément republier plusieurs recueils de fables dénonçant l'hypocrisie d'un système soumis au diktat du politiquement correct, des lobbies et de ses embrigadements déguisés en délivrance, accompagnés de lois liberticides. Vous l'aurez compris, les hommes ont cru depuis la nuit des temps, et rien n'a changé aujourd'hui. Avoir une foi profonde et une espérance inaltérable en qui que ce soit ou quoi que ce soit n'est pas un problème. Vouloir partager aussi ce en quoi nous croyons, que ce soit philosophique, politique, mystique, scientifique ou spirituel, n'est toujours pas un problème. Mais vouloir l'imposer, coûte que coûte, qui plus est avec la force du pouvoir, est un drame absolu. Simone Veil écrivit « La liberté d'expression totale, illimitée pour toute opinion, quelle qu'elle soit, est un besoin absolu pour l'intelligence. » Dernier conseil, et pas des moindres, par confort, croyez ce en quoi croit la majorité. Par dignité, laissez votre intelligence, vos sentiments, vos ressentis, votre conscience guider vos pas. Et je retiendrai en conclusion une citation de Marguerite Yourcenar qui mérite réflexion. Agir et penser comme tout le monde n'est jamais une recommandation. Ce n'est pas toujours une excuse. À chaque époque, il est des gens qui ne pensent pas comme tout le monde, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme ceux qui ne pensent pas. À chaque époque, il y a des gens qui ne pensent pas comme tout le monde, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme ceux qui ne pensent pas.
C'était une émission préparée, présentée et réalisée par Gilles Beg.
Comme à chaque fois, je suis surpris de la vitesse à laquelle défile cette émission et ne peux que vous encourager à aller jeter un coup d'œil sur le site orinoco-podcast.com où vous trouverez un article accompagnant ce programme. Vous aurez aussi la possibilité de le réécouter à votre guise et le cas échéant de le partager ou de le commenter. Encore une fois, merci d'être resté en ma compagnie, en espérant que ces quelques rappels vous auront permis de toucher du doigt la fragilité et la relativité de cette liberté d'expression à laquelle nous tenons tous. En espérant vous retrouver le mois prochain, je vous dis à très bientôt. Ciao.